Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. François Bernard.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute d'Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs sur RFI, on évoque les moments forts de l'actualité avec les rédactions en langue autre que le français de votre radio. Et ce soir, dans le studio de Radio France Internationale, il y a Matei Vișniec du service en roumain. Bună seara.
C'est parfait, bună seara.
Merci à vous. Miguel Martins du service en portugais. Boa noite.
Boa noite, irréprochable, ah. Rien à dire.
Merci. Et good evening donc à Laura Martel du service anglais.
Good evening.
Merci de votre collaboration à cette émission, à tous les trois. Alors, en deuxième partie, nous allons évoquer la Moldavie, où la Cour constitutionnelle suspend les pouvoirs du président Igor Dodon, l'Angola, le nouveau président qui ne cesse de défrayer la conique, la Zambie en prise avec une épidémie de choléra. Mais pour l'instant, on évoque avec vous, Laura Martel, cette polémique suscitée par la publication d'un livre aux États-Unis qui dresse un portrait peu flatteur du président américain, Donald Trump.
Et tout a commencé il y a 10 jours, avant même la sortie officielle du livre Fire and Fury de Michael Wolff. Les meilleures pages ont fuité dans la presse et suscité tout de suite la polémique. Alors surtout sur deux points. D'abord une citation attribuée à Steve Bannon, le sulfureux ex-conseiller de Donald Trump. D'après Wolff, Bannon aurait accusé de trahison le fils du président pour sa rencontre avec une avocate russe pour compromettre Hillary Clinton. Sujet d'autant plus sensible, François, que l'enquête sur les possibles ingérences russes dans la campagne est toujours en cours.
Alors, le deuxième point, c'est la personnalité même de Donald Trump.
Et Wolff de souligner d'abord que ni Trump ni ses proches ne le voyaient accéder à la Maison Blanche. À l'annonce de sa victoire, son fils aurait dit que Trump ressemblait à quelqu'un qui a vu un fantôme. Sa femme aurait pleuré, mais pas de joie. Et puis, une fois Trump au pouvoir, ce sont apparemment ses conseillers qui ont fait grise mine, incapacité à se concentrer. Paranoïa pour Wolff, tous dressent le portrait d'un homme incapable de gouverner.
The one description that everyone has in common, they all say he is like a child.
Alors, l'image qui revient dans la bouche de tous les conseillers, dit Wolff, c'est que Trump est comme un enfant qui ne pense qu'à lui et à la satisfaction immédiate de tous ses désirs.
Et bien sûr, le président n'a pas tardé à réagir.
Alors, sur les accusations de trahison, il a tout de suite affirmé que Steve Bannon avait, je cite, perdu la raison. Il accuse d'ailleurs celui qu'il appelle désormais un Sloppy Steve, ou Steve le débraillé, d'avoir introduit Wolff, qualifié lui de loser, de perdant, à la Maison Blanche, on l'écoute. Oui, Trump dit ici que ce livre est une honte et que si les lois anti-diffamation étaient plus fortes aux États-Unis, eh bien raconter un tel tissu de mensonges serait tout bonnement impossible. Et depuis, bien sûr, la guerre des tweets et des déclarations par médias interposés et quotidiennes.
Bien, voilà le décor posé. Merci Laura Martel. Alors avec vous maintenant, Matei Vișniec, on se rend compte qu'on assiste à une espèce de bataille médiatique entre donc Michael Wolff et Donald Trump. Grand spectacle mondial qui ne déplaît pas, il faut le dire, aux médias américains mais aussi internationaux. Et vous, Matei Vișniec, vous avez abordé le sujet dans vos émissions ?
Oui, parce qu'on se demande si Donald Trump est ou pas malade, s'il est capable de conduire, de diriger le pays. Mais de toute façon, le tsunami médiatique déclenché par ce livre est le symptôme d'un monde malade. Là, c'est sûr que le monde démocratique, la démocratie américaine était déjà malade à cause de l'argent, de la politique spectacle, ça on le savait. Mais là, nous assistons aussi à une forte hollywoodisation de l'information et de la vie politique. Ça aussi, c'est pas une nouveauté. Tout nouveau, c'est le personnage qui habite à la Maison Blanche et qui inaugure pour la première fois dans l'histoire des États-Unis et peut-être de la démocratie une manière de gouverner basée sur le coup de théâtre permanent, sur le coup médiatique permanent, sur l'autoglorification sans limite, d'où son audace sans limite, même dans l'insulte. La preuve aujourd'hui, sa toute dernière déclaration sur l'immigration et l'expression qu'il a employée, pays de merde, pour désigner les régions d'où viennent beaucoup d'immigrés. Je suis tombé sur une citation, Philippe Labro, qui a lu en anglais le livre et qui dit qu'il est à la fois fascinant et repoussant, et que c'est quelque chose du laid et du gênant. Mais c'est justement ces contradictions qui représentent, en fait, qui forment la matière même de la machine médiatique américaine et un peu internationale qui broie sans cesse Absolument. Cette matière-là.
Et Donald Trump a dit, il a tweeté, « Je suis un génie très équilibré ». Cette formule, parmi d'autres de Donald Trump, a donc été la réaction à la publication de ce livre. Et cela vous rappelle une époque que vous avez bien connue dans votre pays, manifestement, en Roumanie, Mathieu ?
Écoutez, c'est dans les années 60 et 80 que j'ai assisté, 70 et 80, à la mascarade incroyable du culte de la personnalité de Nicolae Ceaușescu, le président roumain. Peut-être que certains s'en rappellent. La presse l'appelait tous les jours, génie génial ou le génie des Carpates. Depuis chaque fois que j'entends ce mot, génie ou génial, en rapport avec un chef d'État, forcément, c'est l'époque de Ceaușescu qui fait éruption dans ma mémoire. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Vous prononcez le mot génie et je pense à ce pauvre type propulsé par un système malade, Nicolae Ceaușescu, au sommet du pouvoir et qui avait commencé lui-même à se croire génial. Je ne veux pas trop comparer, mais c'est un système malade qui permet à Trump, à Donald Trump, en ce moment, de s'auto-célébrer sans avoir peur d'être ridicule. Le ridicule ne tue plus, au contraire, plus on est ridicule, plus on gagne en visibilité médiatique, apparemment, en Amérique en ce moment. Quand le président de la première puissance mondiale n'a plus peur d'être ridicule, c'est que nous sommes entrés dans une autre époque, peut-être une époque post-morale, et l'Amérique donne le ton, en quelque sorte, et ça, je trouve que c'est extrêmement troublant, grave, déshonorant même.
Alors, dans le contexte de ce phénomène Trump qui bouleverse donc les règles de la politique, on observe aux États-Unis depuis le début de cette année que le Parti démocrate pense déjà aux élections de 2020 et se tourne vers le monde médiatique et des affaires pour se choisir un candidat susceptible de vaincre M. Trump.
Oui, en effet, le phénomène Trump permet en ce moment l'entrée en scène d'une femme, elle aussi star médiatique, Oprah Winfrey, j'espère que je prononce bien. Voilà, parce que la logique du combat politique tient maintenant de la surenchère médiatique. Donc, question, qui pourrait battre un milliardaire blanc, maître de l'occupation du terrain médiatique, incarnation du rêve américain par sa réussite économique ? Réponse, une milliardaire noire ou de couleur, pour être politiquement correcte, femme d'affaires, elle aussi, star de la télé, elle aussi, qui vient de recevoir un prix important le 7 janvier aux cérémonies des Golden Globes. Finit donc l'époque où il fallait avoir un programme politique pour entrer dans une course présidentielle. En Amérique aujourd'hui, il faut avoir une histoire du succès à raconter, et seulement une histoire plus forte et plus fascinante que celle racontée par Trump pourrait battre Trump. C'est pour cela d'ailleurs que le harcèlement sexuel s'annonce comme un thème majeur pour les élections présidentielles américaines en 2020. Or, Oprah Winfrey, c'est le personnage idéal pour porter cette narration, comme disent les anglo-saxons, « The show must go on », il faut donc préparer le suivant.
Matej Wiśniewski, et je signale, vous l'avez dit également, qu'avec M. Trump, une provocation en remplace une autre aujourd'hui, donc il a évoqué cette immigration en provenance de, vous l'avez cité aussi, pays de mer, des propos qu'il a partiellement contestés quand même, il faut le dire, mais qui ont suscité une vague d'indignation à travers le monde. En tout cas, ce livre de Michael Wolff n'a pas encore été traduit ni publié à l'étranger. Les réactions se font donc un petit peu attendre dans certains pays. En Angola, on y va avec vous, Miguel Martins, il a été question de lecture d'un livre dans l'actualité, un livre américain également, différent. Alors racontez-nous cette histoire.
Absolument, François. En l'occurrence, un livre de Gene Sharp, un politologue anticommuniste américain connu pour ses nombreux écrits sur la lutte non violente. L'un d'entre eux a fait couler beaucoup d'encre en Angola et son adaptation et traduction notamment. Je parle de From Dictatorship to Democracy, dont le titre a été traduit à la lettre vers le portugais par l'enseignant Domingos da Cruz, de la dictature à la démocratie. Il s'agit d'un ouvrage publié aux États-Unis déjà en 1994 et qui aurait été à la base de ce que l'on a appelé les printemps arabes déclenchés il y a presque 7 ans, jour par jour, en Tunisie. Ce sera dimanche. Or, une vague d'arrestations d'un groupe de personnes rassemblées en juin 2015, c'était en Angola, pour lire cette adaptation angolaise du texte de Sharp, va faire couler beaucoup d'encre. L'ambassadeur itinérant d'Angola, l'ouvre de Carvalho, à l'époque dénonçait un livre hautement subversif. En tout, il y aura eu 17 arrestations. La justice angolaise va après accuser et condamner ces personnes pour rébellion et tentative d'attentat contre le président de l'époque, José Eduardo dos Santos, après bien des épisodes, des grèves de la faim, notamment d'un rappeur, le membre le plus médiatique du groupe. Ils ont fini par être relâchés à la suite d'une loi d'amnistie. Dos Santos, lui, a fini par quitter en septembre dernier le palais présidentiel après 38 ans au pouvoir. Là, pour le coup, rarement on aura autant parlé de littérature et d'écrivains américains, autres que Michael Wolff, certes, mais dans un contexte de globalisation des idées et des peurs ou des interprétations que cela peut engendrer.
En tout cas, le rapport entre pouvoir et littérature change manifestement selon les pays. Merci à vous, Miguel Martins.
20 degrés Paris.
Accent du monde. François Bernard.
Deuxième partie d'Accent du Monde en compagnie aujourd'hui de Matej Wiśniak du service roumain, Miguel Martins du service en portugais et de Laura Martel du service en anglais. Alors, nous allons en Moldavie avec vous, Matej Wiśniak. C'est un pays qui est roumanophone, qui est une ancienne république soviétique, indépendante depuis 1990. La Cour constitutionnelle moldave a annoncé, c'était le 2 janvier dernier, qu'elle suspendait les pouvoirs du président Igor Dodon. Alors, expliquez-nous pourquoi.
Il faut dire d'abord que Igor Dodon, un admirateur sincère de Vladimir Poutine, a été confortablement élu en novembre 2016 comme président, mais en face de lui, ce personnage profondément pro-russe, il a un premier ministre pro-européen, Pavel Philippe. Depuis fin décembre 2017, le président s'oppose à la nomination de sept ministres désignés par le premier. D'où la crise actuelle. Le président a le droit de refuser une seule fois d'approuver la candidature d'un membre du gouvernement, a justifié la Cour. Il faut aussi dire que tout est compliqué en Moldavie. Se déclarer pro-européen, cela ne veut pas dire complètement être complètement compétent et honnête. Entre 2012 et 2014, $1 milliard s'est envolé des plus grandes banques du pays à l'époque d'une gouvernance pro-européenne. D'ailleurs, le président reproche à son premier ministre de ne pas nommer assez de technocrates dans le gouvernement et de faire revenir aux affaires des vieux routiers de la politique.
Et vous dites aussi que Moscou tire les ficelles en Moldavie pour garder le pays dans sa sphère d'influence.
Absolument, absolument. Et en ce moment, peut-être plus que jamais depuis 27 ans, et ce n'est pas tellement moi qui le dis, ce sont des observateurs internationaux et des commentateurs moldaves. Le président Dodon est allé voir Poutine à la fin de l'année passée. Il a dû recevoir certaines consignes, peut-être. La presse française n'aborde peut-être pas assez souvent le sujet. Le Monde, quand même, expliquait au début de l'année cette nouvelle phase de guérilla en Moldavie. Je cite, à plusieurs reprises, le président s'est opposé à la majorité pro-européenne sur des sujets touchant à l'orientation stratégique du pays. Je précise que la Moldavie est liée à l'Union européenne par un accord d'association, mais le président a aussi signé un mémorandum de coopération avec l'Union économique eurasiatique promue par Moscou.
Mmh. Allez, un mot d'un livre que vous voulez nous recommander afin de mieux comprendre la Moldavie.
Moldavie, repères et perspectives, un recueil d'articles sur la Moldavie, paru aux éditions L'Harmattan, sous la direction de Catherine Durandan et Irina Gridan. 150 pages, plusieurs historiens et spécialistes qui nous expliquent tout, surtout la manière dont la Moldavie reste attachée aux espaces russes et roumains. Fragile, je cite, fragile dans une ère de crise où se sont joués et se jouent des guerres civiles en Transnistrie hier, en Ukraine, aujourd'hui encore.
Moldavie, repère et perspective, on note. Alors, la rédaction anglaise, Laura, s'est intéressée, elle, à l'épidémie de choléra qui frappe Lusaka, c'est la capitale de la Zambie.
Oui, avec en 3 mois plus de 3000 cas recensés et 70 décès. Alors, la maladie s'est d'abord répandue dans les quartiers très peuplés et insalubres de la capitale, mais elle a ensuite gagné les quartiers plus aisés. Et là-bas, en fait, la bactérie responsable du choléra a notamment été retrouvée dans de la nourriture. Et par exemple, plusieurs chaînes de fast-food sud-africaines ont dû fermer la semaine dernière.
Et pour éviter que l'épidémie ne se propage davantage, eh bien les autorités ont pris des mesures drastiques.
Oui, dès décembre, le président Edgar Lungu a mobilisé l'armée pour sensibiliser les populations aux bonnes pratiques, mais surtout nettoyer la ville, notamment les points d'eau, mais aussi pour déguerpir, comme on dit, les marchands de rue. Il faut savoir que désormais, la vente de denrées alimentaires dans les rues est interdite. Les marchés sont fermés, notamment celui de Soweto, dans l'un des quartiers populaires de Lusaka, un marché qui regroupe des milliers de commerçants approvisionnés par de nombreux paysans qui cultivent en marge de la capitale. capitale. Et ce sont donc plusieurs milliers de personnes qui, depuis une quinzaine de jours, se retrouvent sans travail. D'autant qu'ils ont bien essayé, hein, à trois reprises, de s'installer un peu plus en périphérie. Mais à chaque fois, ils ont été chassés par la police.
Et pour exprimer leur désarroi, ils ont dressé des barricades de fortune. C'était ce matin dans la capitale.
Oui, on a assisté, hein, dans le quartier de Kanyama à des heurts entre la population et la police. Pneus brûlés, jets de pierre d'un côté, gaz lacrymogène et matraque de l'autre. L'économiste zambien Chibamba Kanyama parle de gens désespérés.
There has been a sentiment among most traders that they would rather die of cholera than die of hunger.
Oui, il dit qu'en fait, comme aucune alternative ne leur a été donnée depuis 15 jours, ils n'ont aucune autre ressource puisque c'est de l'économie informelle. Eh bien, ces gens préfèrent risquer de mourir du choléra plutôt que de mourir de faim. Alors, il faut savoir que l'économie formelle est aussi affectée, les activités baissent, le tourisme est en berne, et puis la vie sociale, elle aussi, les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre, les rassemblements limités, notamment pour les enterrements, par exemple. Le choléra n'est pas aussi dangereux qu'Ebola, mais comme nos frères d'Afrique de l'Ouest à l'époque, on n'ose plus se toucher, m'a confié un habitant.
Laura Martel. Allez, on repart en Angola avec vous, Miguel Martins. Le nouveau président, en place depuis 100 jours, ne cesse de défrayer la chronique depuis qu'il a succédé à José Eduardo dos Santos au mois de septembre. Après bien des limogeages à la tête des principales entreprises publiques, ce président, il s'appelle João Lourenço, à parler à la presse angolaise et étrangère.
En effet, François, on n'a jamais connu ça depuis l'indépendance du pays. C'était en 1975 et notamment pendant le règne de Dos Santos entre 1979 et 2017. Donc, pour la première conférence de presse de João Lourenço, c'était lundi, il y avait foule. Et forcément, l'exercice a été décortiqué par tout le monde. Un point important a été celui des nombreux chamboulements au sein des services de l'État. Il vient tout juste de limoger la direction du stratégique Fonds Souverain, créé en 2012 et doté d'un capital initial de 5 milliards de dollars. Un organisme décrié par certains pour sa supposée opacité et qui était jusque-là sous la tutelle de José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président. Depuis l'investiture de Lourenço, d'autres enfants de l'ancien chef de l'État ont perdu soit le leadership de la Société Nationale Pétrolière, soit des contrats qui les liaient à une chaîne de la télévision publique. Mais pour cette conférence de presse, le nouveau président est resté droit dans ses bottes. Si des changements majeurs y a eu à la tête des entreprises publiques, c'est parce qu'il en va de l'optimisation des services concernés, s'est-il justifié, tout en rappelant qu'aucune décision présidentielle de cette teneur ne s'était jamais accompagnée d'une quelconque explication.
Et c'est un sujet d'autant plus sensible que M. Dos Santos est toujours le président du parti au pouvoir, le MPLA.
Voilà, et officiellement, d'après ses propos, ce serait le cas jusqu'en 2018, puisque Dos Santos avait annoncé qu'il quitterait la vie politique active encore cette année. Alors, faut-il le croire? Peuvent-ils continuer de travailler ensemble, Dos Santos et Lourenço? Au vu du contexte que nous avons évoqué précédemment, la question a évidemment été posée au président angolais. Je vous propose de l'écouter.
Eu não sinto essa crispação nas nossas relações. São relações
Donc le chef de l'État angolais, alors que dit-il?
João Lourenço disait ne pas se rendre compte d'une quelconque crispation dans les relations avec José Eduardo dos Santos. Il s'agit de relations normales de travail, assure-t-il, entre les présidents et son vice-président d'un parti. Dans ses fonctions de président de la République, Lourenço dit s'appuyer sur la Constitution et la loi, et a priori, il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Donc il rappelle que Dos Santos et lui sont dans des camps très différents. Il se disait convaincu que si chacun jouait correctement son rôle, il n'y aurait pas de litige. Il rappelle qu'il revient à José Eduardo Dos Santos de dire s'il va tenir son engagement d'abandonner la vie politique active dans l'année en cours 2018 et que lui seul pourra dire quand est-ce que cela va se produire. Il n'y a pas de raison d'être impatient, conclut philosophiquement le président Lourenço. L'année 2018 vient juste commencer. Attendons les temps à venir.
Eh bien, ce sera notre conclusion. On n'aura pas le temps d'en dire plus, malheureusement, dans Accent du Monde, où, comme d'habitude, les accents étaient légers, mais le monde bien présent dans cette émission. Merci à tous les trois. Matej Wiśniewski, du service en roumain, Miguel Martins, du service en portugais, et Laura Martel, du service en anglais. Merci pour votre éclairage particulier de l'actualité du monde. Et merci à Valentin Vaner, qui réalise cette émission. Cette émission, rendez-vous, bien évidemment, la semaine prochaine. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale, l'info continue, un rappel de l'actualité dans quelques secondes. Bonsoir à tous.